you know, with sympathetic farmers. One journalist.
Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule. Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Céline qui vous parle, vous êtes bien au rendez-vous hebdomadaire de Café sur les ondes de CKUT au 90.3 FM, où chaque semaine, on vous parle de culture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vous raconte le spectacle Direction assistée, réalisé par Brice Nozer et présenté au Théâtre La Chapelle Scène contemporaine à Montréal du 24 au 27 février. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter notre collaboratrice Alex, qui a discuté avec Christian Glitch de la sortie à venir du vidéoclip de la chanson EZ, paru sur son dernier EP Characters. Finalement, Maud nous fera voyager dans l'univers percussif inédit du défunt virtuose Franck Dervieux avec une présentation de l'album Dimension M, sorti en 1972, véritable chef-d'œuvre et grande inspiration du rock progressif québécois. Bonne écoute! La description du spectacle Direction assistée sur le site de La Chapelle est va comme suit. Avec Direction assistée, Brice réunit quatre femmes au cœur d'une création performative plurilingue et inusitée. Influencé par le public, le quatuor féminin s'engagera dans des échanges inattendus, jonglant entre devinettes et joutes sportives. Direction assistée révèle des moyens de nous mettre en relation, nous êtres humains humaines, et transforme nos perceptions. Je suis allée à cette représentation sans vraiment savoir à quoi m'attendre, juste parce que le concept m'avait intriguée. Je m'attendais à quelque chose d'assez abstrait, mais en fait, j'ai senti, en assistant au spectacle, qu'il était vraiment très structuré. Il nous laisse le ressenti que peu de choses étaient laissées au hasard, et en même temps, le principe du spectacle est basé sur l'improvisation, sur des éléments venant du public. En fait, au tout début de la représentation, chacune des quatre comédiennes annonce qu'elle va choisir une personne ressource parmi le public pour l'accompagner durant le spectacle. Elles utilisent des épisodes de Piscine Bleue pour donner des flip-phones à leur personne ressource et pour que celle-ci leur prête un objet qui leur appartient. Ça pouvait être une épluchure d'orange, un livre, des clés, vraiment, peu importe. Ensuite, les comédiennes utilisaient leur propre téléphone pour appeler le flip-phone confié à la personne ressource, et les couples comédiennes-personnes ressources ont alors eu plusieurs conversations, parfois tous en même temps au long du spectacle, ce qui fait que c'était très difficile de se concentrer sur une conversation à la fois pour tenter d'attraper des petits bouts de phrases et comprendre de quoi ils parlaient. Les conversations se faisaient en français, toutes les comédiennes parlaient bien français, mais pour trois des quatre comédiennes, on entendait que ce n'était pas leur première langue. En effet, il y avait une femme néerlandaise, une femme bulgare et une dont la langue s'apparentait à l'allemand. Et après avoir fait quelques petites recherches, je crois que c'était du suisse-allemand, selon mon humble oreille. Donc le spectacle était vraiment axé là-dessus, sur la façon dont des personnes qui viennent de plusieurs endroits très différents et qui parlent des langues très différentes arrivaient à construire un lien, à se comprendre sans forcément tenter de traduire leur langue ou d'essayer de se comprendre par d'autres moyens plus évidents. On ressentait que chaque langue était vraiment mise en avant, honorée, il n'y en a pas une qui était plus célébrée qu'une autre. Même le français était uniquement utilisé par une des comédiennes pour se faire comprendre, parce que c'était sa première langue, et par les personnes ressources des comédiennes. Le spectacle était constitué de plusieurs parties qui s'alternaient, c'est-à-dire des chorégraphies abstraites entre les comédiennes ou une seule à la fois parfois, des conversations téléphoniques avec les personnes ressources du public, ainsi que des conversations one-on-one avec les comédiennes et leurs personnes ressources. Donc, aussi, chaque comédienne a raconté une anecdote, une histoire dans sa langue natale, ce qui était très intéressant parce que, avec leur gestuelle exagérée qui s'apparentait un peu à une expression théâtrale, les expressions de leur visage, on arrivait malgré ça à comprendre quand même vaguement le sens de ce qu'elles essayaient de nous transmettre. Personnellement, mon moment préféré, c'était vraiment le moment où la femme bulgare a tenté de faire deviner une expression. C'était une phrase courte en bulgare qu'elle essayait de faire deviner aux trois autres comédiennes et au public en même temps. Mais c'était vraiment les trois autres comédiennes qui tentaient de décortiquer la phrase, elles mimaient des actions pour voir ce qui correspondait à la suite de mots. Mais rien semblait correspondre et la personne bulgare changeait de mime, changeait de façon de mimer la phrase chaque fois qu'on pensait qu'on s'approchait de la réponse, jusqu'à ce qu'elle avoue que la suite de mots qu'elle essayait de faire deviner aux autres était une trace de quelque chose d'autre. Donc ça a bien fait rire le public parce que, évidemment, bonne chance pour mimer cette phrase et la faire deviner dans une autre langue. Donc il y avait vraiment un aspect humoristique très présent au spectacle et une connivence très claire entre le public et les comédiennes. On s'attache vraiment aux comédiennes, elles étaient entre tous les âges, 30 ans et 65 ans, je dirais. J'aurais quand même aimé en apprendre plus sur leurs histoires personnelles parce que même si le spectacle était super intéressant d'un point de vue découverte de nouvelles langues, découverte de façons de transmettre des choses, je trouvais que ce qui manquait, c'était davantage d'individualité. J'aurais vraiment aimé connaître plus intimement chaque comédienne parce que elle se dévoilait physiquement, elle se montrait vulnérable dans leur danse un peu abstraite, sans avoir peur du ridicule. Pas que leur danse était ridicule, mais quand même, pas tout le monde est capable de se traîner langoureusement par terre ou de faire des grands mouvements en traversant la scène tout seul. Mais par contre, je trouvais pas qu'elle se confiait intellectuellement ou mentalement. C'est peut-être arrivé quand elle racontait les histoires dans leur langue natale, mais justement, on pouvait pas le comprendre, on pouvait pas le savoir. Puis j'ai trouvé que ça mettait quand même une barrière qu'ils n'ont pas réussi à faire tomber forcément. Puis ça fait que j'ai pas eu l'impression de les connaître vraiment ou de d'avoir accès à leurs histoires personnelles. Également, la personne bulgare a parlé brièvement de ce que représentait le fait de parler d'autres langues que sa langue natale, sur le fait que c'était comme, entre guillemets, une deuxième porte de sortie, un deuxième échappatoire pour elle. Mais c'est vraiment la seule fois que le sujet du polyglottisme est abordé. Puis moi, en tant que personne ayant un grand intérêt envers tout ce que représentent les langues, l'appartenance, puis la culture pour l'individu, j'aurais vraiment adoré en entendre davantage. Entendre davantage leur point de vue là-dessus parce que justement, chaque comédienne parlait au moins trois langues, leur langue natale, le français et l'anglais. Mais même avec ces petits aspects dont j'aurais aimé en entendre un peu plus parler, j'ai vraiment adoré cette pièce-là qui durait seulement 1h10. J'en aurais vraiment pris plus longtemps et plus développé. Même avec ces petits aspects dont j'aurais aimé entendre plus parler, j'ai vraiment adoré cette pièce-là qui durait seulement 1h10. J'en aurais vraiment pris plus longtemps et plus développé. Mais d'ailleurs, je retourne le 11 mars à La Chapelle pour regarder Sam et Angèle de Sovan Rochon-Promtep, qui est présenté dès le 7 mars à La Chapelle. Donc, pour ce spectacle, Sovan puise dans la créativité et l'expérience des artistes de danse et de chant Samantha Hinds et Angélique Wilkie, ainsi que l'artiste visuelle Laila Mestari. Il propose ainsi un grand collage d'idées, de mélodies et de corps en mouvement et de textiles. À travers une exploration du plaisir, du sacré, de l'amour-propre et du doute, la notion d'identité se décortique. Donc, c'est ça la petite description. J'ai vraiment hâte. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous renseigner un peu plus sur ce spectacle-là. Et bonne suite d'émission!
In between. Bonsoir tout le monde, c'est Alex qui vous parle. Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et culture du vendredi, l'émission Café. Cette semaine, j'ai la chance de pouvoir m'entretenir avec la chanteuse et multi-instrumentiste basée à Montréal, Christiane Glitch. Allô Christiane!
Salut!
Merci tellement de nous recevoir dans ton salon en mode Zoom, encore une fois.
Ben merci beaucoup à toi pour l'invitation.
Ça fait absolument plaisir. Donc, on t'invite, entre autres choses, pour souligner la sortie du vidéoclip de la chanson « Easy Way » qu'on vient tout juste d'entendre. Chanson parue sur ton EP « Characters » qui est sorti en novembre dernier. Christiane, tu es active dans le milieu musical montréalais depuis plus de 15 ans. En plus de ton propre travail, tu as collaboré avec plusieurs projets tels que Brandvan 3000, Sonny Duval et Les Guerres d'amour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire de la musique?
Ben oui, certainement. Écoute, c'est ça, moi, ça fait longtemps que je fais de la musique. J'ai un parcours assez éclectique. Tu sais, j'ai fait des études en jazz, mais j'ai pas continué dans ce domaine-là du tout. Après les études, j'avais un band de reggae, ska, qui faisait de la tournée un peu partout en Amérique du Nord. Ça a été un projet pendant quelques années. Après ça, de fil en aiguille, juste en collaborant avec toutes sortes de musiciens, c'est ça, il y a eu un paquet de projets qui se sont ajoutés. Là, avec Sonny Duval, j'ai eu un band de rock garage aussi que je chantais dedans, qui s'appelait Fear of Cheese.
Wow!
Ouais, toutes sortes d'affaires, des collabos avec, c'est ça, d'autres artistes, la tournée avec Brandvan, Puis le groupe Les Guerres de l'amour aussi, qui était comme plus disco-funk. C'est comme saxophoniste, chanteuse, tout ça. Mais parallèlement à ça, je faisais toujours... je bidouillais tout le temps un peu mes propres chansons à la maison, sans avoir de projet concret à faire avec ça. J'ai essayé de partir différents bands, tout ça, qui ont plus ou moins fonctionné. Et puis, c'est en 2016, je pense, que j'ai une amie artiste visuelle qui avait... et qui m'a lancé une invitation un peu particulière. Elle avait une exposition un peu... c'est Caro Caron qui est une... a fait de la peinture, des médias, body painting, maquillage, toutes sortes d'affaires. Elle avait une exposition solo où est-ce qu'elle voulait avoir comme une genre de personnage. Elle avait créé comme un personnage de déesse sirène là, qui s'appelait Dieuse. Puis elle avait fait tout un costume flyé pour aller avec ça. Puis elle voulait une artiste solo pour... faire une performance musicale en incarnant ce personnage. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure avec mes pédales de loup, les affaires que j'avais à la maison. Puis ça a été comme un peu... C'est ça qui a comme spontanément commencé l'affaire. Puis j'ai trouvé ça le fun. C'était la première fois que je me lançais comme ça tout seul dans une performance. Un peu style one woman band avec le loop, les percussions, le petit clavier puis tout ça. Puis on dirait que j'ai trouvé ça libérateur en même temps. Je me suis dit ok, ben je peux essayer de. J'ai pas besoin de trouver un band ou ça pour faire mes chansons. Puis c'est un peu parti de là. Après ça, il y a des chansons que j'avais créées pour ce spectacle-là, d'autres qui sont venues par après, puis c'est ça que ça l'a donné.
OK.
Ça l'a évolué de ça, ouais.
Wow, OK. Puis juste pour revenir un peu en arrière, est-ce que tu es une de ces chanceuses qui a réussi à comme vivre de ta musique pendant toutes ces années-là, ou est-ce que tu travaillais un peu à côté?
J'ai toujours travaillé à côté. Moi, j'ai une carrière parallèle de traductrice à la pige. Donc, un métier très flexible qui se combine bien. T'as juste besoin d'un laptop puis d'une connexion Internet. Tu peux travailler partout dans le monde. Fait que moi, non, j'ai toujours fait ça. Disons, j'ai eu ma double vie, comme on dit. C'est non. Ça, musicienne et traductrice, ouais.
OK, mais j'aime bien savoir ça parce que c'est ça, dans le milieu de alternatif, mettons, c'est bien de connaître les carrières, les parcours des autres, puis qu'est-ce qu'on fait aussi à côté pour... on bosse dur, tu sais, pour
oui.
arriver à faire tenir une carrière, à payer son loyer, puis à faire vraiment qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui... donc là, tu viens de nous parler un peu justement de ton parcours. Donc, ta carrière solo, elle est assez récente. Donc, ça a commencé en 2016, comme tu viens de nous raconter. Mais ton premier EP, donc on peut trouver sur les internets, c'est avec la chanson « COVID and Christmas ».
Ça, c'est un single que j'ai lancé à part, mais j'ai fait aussi un autre EP qui est sur Bandcamp. « COVID and Christmas », ça, c'était... vraiment un single que j'ai lancé l'année passée, en 2020, lors de notre premier Noël confiné.
OK. J'ai vraiment adoré cette chanson.
Merci.
Mais là, je pense que j'ai mal fait mes recherches. Fait que là, tu dis que tu avais déjà fait un autre EP auparavant. Puis là, le deuxième, c'est Characters, donc qu'on vient de parler. OK.
Oui, c'est ça.
Justement, un peu, est-ce que tu peux nous parler de l'élaboration de cet EP-là que tu as composé, j'imagine, pendant le temps du COVID? Est-ce que justement, cette pandémie mondiale a comme permis de créer de l'espace ou au contraire, c'était quelque chose qui t'habitait depuis longtemps puis c'était juste comme une question de timing?
Oui, bien, la pandémie a aidé, mais en fait, toutes les pièces sauf une, il y a la dernière pièce là, OK, que j'ai composée pendant la pandémie, mais les autres, c'était des pièces que j'avais écrites avant, que je présentais déjà dans mes premiers spectacles. Puis que je dirais que je travaillais sur ce EP-là vraiment à temps perdu entre mon travail, entre d'autres projets de musique que j'avais à l'époque. Je faisais des petites sessions de studio avec Nave et Confi. Les deux, on était bien occupés. On faisait ça quand on avait un peu de temps. Puis là, ben, le timing a été bon parce que je dirais que je me sentais tout le temps un peu frustrée que ce projet-là avance lentement. Puis là, j'étais rendue à une époque où ce que je voulais prendre une break de faire des shows solo parce que c'est beaucoup d'énergie. Moi, j'étais habituée, j'ai fait beaucoup de spectacles, mais quand tu le fais tout seul, puis que tu bookes tout seul, puis que tu es sur le stage tout seul, c'est comme 10 fois plus d'énergie. Donc là, j'étais comme rendu à un point, j'étais comme je voulais prendre un break de faire des shows puis juste me concentrer sur mon EP. Puis là, c'est là que la COVID est arrivée. Donc, ça m'a permis de finir l'enregistrement. C'est ça, j'ai enregistré le plus gros de ces tunes-là avant la pandémie avec Nave et Confi dans son studio, mais j'ai aussi mon chum Steve on a un studio maison dans notre sous-sol, Steve Dumas, à ne pas confondre avec le chanteur Dumas qui a le même prénom, ça c'est un peu drôle. Des fois dans mes affaires, il se fait comme name dropper, mais c'est un autre musicien qui a le même nom et prénom. Fait qu'on a pu finir, ça dans notre studio. Il a pu finir de mixer, qui lui aussi a ses projets puis qui faisait ça à temps perdu. Mais ça nous a donné le temps de finir, de travailler sur tout ça puis de rajouter, là, c'est ça, j'avais rajouté une autre composition à la fin. Okay. Donc oui, pour moi, ça m'a aidé après ça, puis j'avais plus de temps à me consacrer à la promotion, puis tout ça. Qu'il y ait un peu moins d'activités puis de projets, ça m'a permis de me concentrer là-dessus, même si la musique avait déjà été écrite avant. Ouais.
Comme je l'ai déjà mentionné, tu es à la fois chanteuse, multi-instrumentiste, tu joues du synthétiseur, du saxophone, entre autres choses. Tu utilises des loops aussi pour créer des ambiances qui peuvent être à la fois sombres, mais aussi très pop. J'ai lu que tu aimais beaucoup expérimenter. Ça s'entend dans tes chansons. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes inspirations musicales, mais peut-être aussi d'écriture? Mais peut-être on va commencer par les inspirations musicales.
OK, ben écoute, je dirais mes inspirations musicales, premièrement, il y a tout le bagage éclectique des projets que je fais depuis que je fais de la scène. Comme je te dis, tu sais, j'ai fait des études dans le jazz, il y a eu le reggae, le funk, le rock. J'ai collaboré aussi avec un ensemble de musique expérimentale à Montréal, l'ensemble Super Musique qui ont une chorale qui s'appelle Joker, qui c'est vraiment une chorale de musique improvisée. Des artistes un peu plus underground aussi, là, Jacques Bertrand, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est tout ce bagage d'influences réunies qui se retrouve un peu dans ma musique, dans ce que j'écoute aussi comme musique. Ça ratisse très, très large. Tu sais, puis pour moi, j'ai commencé à créer ce projet-là pour moi sans mettre de barrière, me dire « je veux m'orienter vers tel style ». Fait que c'est plus, je compose ça comme ça vient, puis après ça, j'identifie les influences. Des fois, ça peut être des gens qui me disent « Ah, ça me fait penser à telle chose. » Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit que ça me fait penser à Massive Attack ou Nine Inch Nails. Puis je suis comme « Bah, c'est vrai, j'ai écouté ça beaucoup dans ma jeunesse. » Fait que c'est comme dans un tiroir de mon cerveau, tu sais, quelque part. Tu sais, j'aime beaucoup David Lynch, autant ses films que ses albums. Fait que, tu sais, ça s'est retrouvé un peu sur certaines pistes. Il y a la dernière pièce qui est un peu plus funk que Stevie Wonder, je trouve. C'est ça, c'est aussi... Fait que c'est un peu ça, l'idée, le characters. T'sais, chaque tune est un peu un univers puis un personnage différent. Fait que c'est... ouais, c'est ça que je te dirais un peu au niveau okay. des...
Oui, c'est vraiment intéressant, justement, chaque pièce, et j'ai envie de rebondir là-dessus, là, chaque pièce est un peu un univers puis un personnage différent. Mais ça ramène peut-être à la question du processus d'écriture. Est-ce que tu en as un? Est-ce que j'ai remarqué que tu utilises quand même le sarcasme dans certaines de tes chansons, là, entre autres, bon, on a parlé de COVID and Christmas, mais il y a Stupid Industry aussi, qui est comme quand même un pied de nez à l'industrie que je trouve excellente.
Ah ben merci. C'est très spontané en fait. Moi, j'écris beaucoup, tu sais, dans un cahier, toutes les pensées qui me passent par la tête, un peu le journal intime. Fait que des fois, c'est juste, je vais noircir une couple de pages, puis il y a comme une lumière qui va arriver de, je vais parler de telle chose, tu sais. Puis ce EP-là, c'est un EP qui est très personnel, je veux dire. J'ai longtemps voulu faire, tu sais, j'ai eu toutes sortes d'expériences de scène puis tout ça, mais j'ai longtemps eu ce rêve-là de faire quelque chose de plus personnel, de partager mes propres chansons en me sentant un peu bloquée. Fait que c'est un peu, ces chansons-là, c'est un peu où est-ce qu'il y en a plusieurs, où est-ce que c'est comme moi qui overcome mes propres blocage là, tu sais, justement comme Stupid Industry, c'était une journée que j'étais assis puis que je me remettais en question de bon pourquoi je fais ça, hey, je suis dans la trentaine avancée, je me sens déjà vieille, tu sais, puis fait que je me suis juste mis à écrire un peu, tu sais, toutes mes blocages, puis ça finit par faire une toune avec ça, tu sais, fait que c'est un peu c'est un peu ça, tu sais. Il y a comme, tu sais, il y a les petites parenthèses aussi que tu vois là, autour du S. C'est un peu ça. C'est comme un peu de se débarrasser de toutes ces barrières-là, de toutes ces couches-là d'influences externes qui nous empêchent un peu d'avancer, qui nous restent un peu bloqués. Puis c'est un peu, ouais, c'est comme ça que je décrirais ça.
Wow, c'est vraiment inspirant ce que tu racontes.
Ah ben merci.
Oui, ben, peut-être pour terminer, on va parler un peu de ce clip hein, qui va sortir vraiment bientôt. Réalisé et monté par Gabriel Lapierre, artiste musical et visuel, bien connu de la scène musicale montréalaise, qu'on connaît entre autres choses pour la réalisation de vidéoclips d'artistes comme La Bronze, Kid Kuna et plusieurs autres. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui représente ce clip-là dans le lancement de ton EP, dans ta carrière solo?
OK. Ben écoute, c'est mon premier clip à vie là, en tant qu'artiste solo. Fait que je suis bien contente de ça. Moi, ça a été. J'ai eu l'idée de faire ça, disons, juste pour donner un peu plus de momentum, pour offrir quelque chose de plus aux gens une fois que le EP était sorti. Surtout dans une époque où est-ce que, tu sais, bon, les shows, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a toutes sortes de contraintes. Et puis, ben c'est ça, Gabriel, je l'ai rencontré pendant la pandémie, justement. Il faisait une captation au Quai des Brumes là, pour les soirées lunes, là, qui sont comme une soirée cabaret qu'il y avait mensuellement, ben que. Ça a commencé par des soirées cabaret mensuelles avec c'était des collaborations entre artistes féminines. Puis là, bon, ils ont d'autres. Ils font toutes sortes de choses, les filles de lune, là, pour promouvoir les artistes féminines. Et puis, il y avait cette captation-là que j'avais faite moi, c'était une performance avec Géraldine, puis il y avait d'autres artistes. Et puis, c'était Gabrielle qui filmait. Puis, tu sais, j'avais senti une affinité tu sais, musicale avec lui. Puis, j'avais été voir un peu, j'avais su qu'après ça, qu'il faisait des clips. Puis, je me suis dit, ah, ça serait un bon fit. Moi, c'est ça, j'ai rarement, avec mes propres chansons, j'avais vraiment conceptualisé ça là, sous la forme d'un clip, mais lui, il a écouté la toune, puis il m'est arrivé avec un concept que juste en le lisant, j'avais des frissons, puis j'ai dit, ah yes, j'embarque. Puis Je trouvais que ça représentait, je trouve que ça représente vraiment bien le côté un peu rétro, underground, c'est sombre dans un sous-sol, puis il y a les personnages un peu multiples avec les masques, puis tout ça. En tout cas, je trouvais qu'il avait bien saisi là, la vibe. Puis, ouais.
Effectivement, ça complète vraiment bien. C'est ça, là, comme c'est inspiré d'une esthétique des années 80, rétro-futuriste. On voit des personnages danser, le masque. On ne sait pas qui est qui au final. C'est, non, ça représente bien cette chanson-là, effectivement. Écoute, merci. Peut-être juste avant de te laisser aller, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te voir dans les prochains mois?
Dans les prochains mois, eh bien, je dirais qu'en fait, dans les prochaines semaines, ça serait de surveiller mon Facebook et mon Instagram parce que c'est là que je vais annoncer la sortie du clip. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, Christian Glitch. Je n'ai pas annoncé officiellement la date encore de la sortie, mais si vous me suivez, vous le saurez sous peu. Après ça, je risque de prendre une pause de plusieurs mois parce que je suis présentement enceinte d'un petit bébé qui s'en vient là, dans à peu près un mois. Donc, donc, on va prendre une pause après ça. Puis après ça, ben, on va voir d'ici un an, ça va peut-être être un retour dans l'univers virtuel et ou physique selon... espérons que rendu là, les choses, le monde aura changé pour le mieux et que ce sera plus facile de partager la musique.
On se le souhaite tellement. Ouais. Écoute, merci tellement, Christian Glitch, puis bonne chance pour avec ce petit bébé à venir.
Oui, ça me fait plaisir. Merci à toi d'avoir, d'avoir pris le temps de me parler puis de me rencontrer. Via les internets.
on va laisser dans la bio les liens pour te suivre et pour écouter ce clip en live.
Parfait.
Merci. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine.
Sigur Rós. The Icelandic sensation from Reykjavik. Back in Montreal. June 10th at Place des Arts. Tickets on sale now at evenko.ca. Do not miss Sigur Rós live in concert.
Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Man, qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. Vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Thank you.
Bonjour à tous et à toutes. C'est Maud sur les ondes de CKUT pour l'émission Café. Alors, ce que vous venez tout juste d'entendre, c'est une composition inédite parue dans un album qui s'appelle Dimension M. Donc, ça a été réalisé par le claviériste Franck Dervieux et c'est paru en 1972. Donc oui, il y a maintenant presque 5 décennies. Vous pouvez vous imaginer que c'était assez avant-gardiste pour l'époque. Et en tant qu'adepte des œuvres inédites et marginales, ben, vous comprendrez que ça m'a bien plu. C'est considéré pour certains comme le premier album progressif Nouvel Âge au Québec. Il a un peu tombé dans l'oubli après sa parution. C'était pas un très grand succès commercial, mais il a été réédité en 2012, si je me trompe pas. Donc, c'est de ces œuvres qui sont pas tout à fait comprises en leur temps, mais qui ont quand même cette valeur qui est reconnue plus tard. Il faut dire que c'est aussi le seul et unique disque qui a été produit par Franck Hédervieux. Il est décédé en 75, donc seulement 3 ans après l'apparition de son album, d'un cancer. Et puis, ironie, me direz-vous, il a en fait dédié cet album à ses 3 médecins qui ont permis de prolonger sa vie juste assez longtemps pour qu'il puisse nous laisser ce legs du psychédélique progressif québécois. C'est vraiment une odyssée musicale, puis une fusion exquise et vraiment inattendue de jazz, de classique, de blues rock, de funk, de psychédélique. Même si celui qui l'a composé n'a hélas pas été témoin de son succès de son vivant, un peu à la Van Gogh, une tragédie des génies incompris, son album, il a quand même été une grande inspiration pour le style unique du rock progressif québécois. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve plus tard et je vous en fais écouter un petit peu plus.
Thank you.
poursuivre et terminer cette émission en musique, voici La vie n'attend pas de Valence, New Year's Eve, écrit N-Y-E, de Pataugeoire, Glace, de B-A-A-B. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine!
Yeah.